Toujours sur le studio Kalangou, bienvenue dans ce journal en français, présentation de fils Adam Sirfo. À la une de ce journal, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, également chef de la MINUSMA, Mohamed Saleh, est en visite à Niamey. Il a été reçu hier par le président de la République Issifou Mahamadou. La situation sécuritaire au Sahel était au cœur de leur échange. Point de presse animé hier par le directeur général de la douane. Il a exposé la position de l'État sur la question de l'octroi de la concession des magasins sous douane de Niamey et d'Osso au groupe Bolloré. Consommation des eaux de pluie et eaux stagnantes, quelles conséquences sur la santé? À suivre les explications de médecins de la partie magazine de ce soir. Bonsoir à tous. L'octroi de la concession des magasins sous douane au groupe Bolloré crée pas mal de remous dans le secteur du transport, du commerce et des transitaires. C'est la direction des douanes qui représente l'État dans cette affaire. Hier, le directeur général de la douane a exposé la position de l'État sur cette question lors d'un point de presse qu'il a animé. Issaka Assoumana, directeur général de la douane, que je vous propose de suivre.
En fin d'année, le bénéfice sera réparti de la manière suivante. 20% pour la constitution d'un fonds d'entretien et de renforcement des équipements, 10% au fonds d'équipement de la Direction générale des douanes, 20% au trésor public et 50% à la chambre de commerce. Les véritables enjeux de la mise en œuvre des conventions de concession de la gestion des magasins sous douane. 1. Le concessionnaire est tenu de renforcer et moderniser les équipements. Les importateurs, ils tireront une plus grande célérité dans l'accomplissement des formalités. Et avec ça, une baisse de prix de revient qui justifiera bien des réductions des prix aux consommateurs. Puisque s'il y a une baisse de prix de revient, il y a normalement une baisse du prix aux consommateurs. Cette mise en concession des magasins sous douane permettra à la douane de disposer d'informations plus fiables pour les besoins du contrôle. Ensuite, l'assiette des droits et taxes sera élargie, d'où en tout cas plus de recettes pour l'État.
Propos recueillis par nos confrères de la radio Enfani. L'Organisation internationale pour la migration OIM a initié une série de formations techniques et professionnelles au profit des migrants en transit et admis dans le centre de l'OIM à Agadez. Cette formation vise à assister les migrants en détresse pour mieux intégrer leur communauté d'accueil. La formation concerne 25 migrants de la sous-région. Explication du directeur du centre OIM à Agadez, Azawa Mahaman.
OIM a initié un certain nombre de formations professionnelles allant dans le sens de permettre aux migrants en détresse admis au centre de transit de mieux intégrer leur communauté d'accueil une fois au retour de leur pays. Trois formations ont été lancées. La première formation a été lancée il y a 17 semaines de cela. C'est une formation en fabrication de briques autobricante à l'aide des déchets plastiques et du sable. La deuxième formation lancée est la formation en bijouterie. La troisième formation qu'on avait initiée il y a une semaine de cela, c'est la formation en germe. Donc, cette formation en germe, en technique d'entrepreneuriat, est faite à l'endroit des jeunes migrants qui sont au niveau du centre de transit, mais aussi des jeunes d'Agadez en collaboration avec l'ONG Suisse Contact. Donc, voyez-vous, OIM, conformément à notre mandat, nous sommes en train de réguler cette migration qui, une fois faite, va permettre aux migrants de bénéficier des profits de cette migration.
Vous venez d'écouter le directeur du centre OIM Agadez, Azawa, sur la formation d'assistance aux migrants en détresse. Poursuite ce mardi au palais des congrès de Niamey du colloque sur le Centre national d'études stratégiques et de sécurité SNES. Selon le recteur de l'université de N'Djamena au Tchad, Ali Abdourahmane, plusieurs points importants se rapportant aux défis du continent africain en général et du Niger en particulier ont fait l'objet d'examens minutieux. Il est au micro de Mokhtar Hamadou.
Aujourd'hui, je crois que la question du chômage des jeunes doit être traitée comme on traite toutes les autres questions liées à la sécurité. Il y a des sécurités militaires, il y a des sécurités géographiques, il y a des sécurités stratégiques, il y a des sécurités économiques, il y a des sécurités financières, et je crois que toutes ces questions-là sont liées. Et le plus grand défi, à mon avis, c'est aussi la question de la gouvernance. Vous êtes sans ignorer que dans des espaces où on ne privilégie pas la bonne gouvernance, où on ne privilégie pas la transparence, cela se traduit souvent par des frictions, par des conflits, qui dégénère souvent en conflit violent. Il y a aussi d'autres défis. Le premier défi, c'est l'ignorance. Le deuxième défi, c'est la pauvreté. Et le troisième défi, qui est d'ailleurs une conséquence de l'ignorance et de la pauvreté, c'est la violence. Il faut que les hommes politiques qui sont au pouvoir ou ceux qui veulent venir au pouvoir comprennent que c'est le bon leader qui fait les bonnes choses. Il faudrait nécessairement mettre l'accent sur l'école, sur la formation. On peut construire une route, elle se détériore, mais quand on construit des vrais hommes, ils ne se détériorent jamais. Je ne pense pas qu'il faille faire de l'économie dans la formation.
Je l'annonçais dans les titres, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU au Mali, également chef de la MINUSMA, Mohamed Saleh Anadif, a été reçu hier par le président de la République, Issifou Mahamadou. La situation sécuritaire au Sahel a été évoquée lors de cette audience à la présidence. Mohamed Saleh Anadif, que je vous propose d'écouter.
Depuis le mois de janvier, je suis le représentant du secrétaire général des Nations Unies pour le Mali et chef de la MINUSMA. Le Niger est un pays voisin du Mali. Le Niger est un des grands pays contributeurs de troupes au niveau de la MINUSMA. Et le Niger est ce que je peux appeler l'un des pays de front pour la lutte contre le terrorisme. C'est autant de sujets de préoccupation aussi bien pour la MINUSMA que pour le président et le gouvernement du Niger. Je suis venu donc, un, pour essayer d'avoir un échange sur toutes ces questions et surtout recevoir les conseils et comprendre les analyses des autorités nigériennes afin qu'on puisse ensemble mutualiser les efforts et lutter aussi bien pour la paix au Mali que pour anéantir les terroristes qui hante toute cette région.
C'était là le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, Mohamed Saleh Anadif. Il était au micro de nos confrères de la télévision nationale. Le syndicat national des agents des collectivités territoriales du Niger, Centractin, section de Maradi, a levé son mot d'ordre de sit-in prévu ce matin devant l'hôtel de ville de Maradi. Et cela fait suite à une rencontre de négociation avec le secrétaire général de la ville. Ils ne maintiennent pas moins leur grief vis-à-vis de l'administration, le non-paiement des salaires à terme échu depuis 2 mois et surtout le non-versement à la Caisse nationale de sécurité sociale des cotisation sociale réglementaire. Plus de précisions avec Yacouba Maman, le secrétaire général du Centractin, section Maradi.
De l'année 2011 aux années antérieures, donc y a une dette de 150 millions. De 2011 au juillet 2016, il y a 43 millions qu'on n'a pas versé au niveau de la caisse. Au total, donc, ça fait plus de 193 millions des impayés qu'ils n'ont pas versé à la caisse. Mais malheureusement, je dis malheureusement, chaque fin du mois, qu'on prélève la part ouvrière dans notre salaire, très malheureusement, ils ne versent pas la part ouvrière et ni la part patronale au niveau de la caisse.
Ce qui fait que ceux qui sont partis en retraite même ne sont pas rentrés dans leurs droits?
Il y a 4 agents qui sont partis à la retraite depuis 2015, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas reçu leur pension. Parce que le problème qui se pose, la mairie n'a pas pu régulariser pour le versement à la caisse intégrale pour qu'elle arrive à avoir leur pension.
C'est parce que la mairie n'a pas d'argent?
J'avoue que la mairie a des fonds propres, mais non seulement ils ne sont pas en mesure de nous mettre dans nos droits. Ce n'est pas question qu'il n'y a pas de l'argent, non.
Qu'est-ce qui prouve qu'ils ont l'argent?
Bon, ce qui prouve qu'il y a de l'argent, ils sont en train d'attribuer les marchés.
Propos recueillis par notre correspondant à Maradi, Mohamed Maman. Ouverture hier d'un atelier regroupant les membres du gouvernement, les différents opérateurs de téléphonie mobile et les cadres de l'autorité de régulation des télécommunications et de la poste à ARTP. Objectif à créer un cadre fédérateur, 10 cadres de consultation et de concertation afin de faire l'état des lieux global du secteur des télécommunications. La création de ce cadre est prévue dans les textes régissant l'ARTP. De quoi sera-t-il exactement question? Le directeur de l'ARTP, Ali Al-Kassoum, explique au micro de Diallo Mariama Kenda.
Aujourd'hui, cet atelier-là vise justement à créer cet échange, ce cadre fédérateur pour amener les uns et les autres à regarder ce qui se passe dans le secteur, donc faire un état de lieu global du secteur en ce qui concerne le Niger, faire un benchmark de savoir autour de nous qu'est-ce qui se fait au niveau des pays de l'UMOA, au niveau du monde arabe, qu'est-ce qui se passe au niveau mondial, qu'est-ce qui se passe en termes de chiffres, regarder les chiffres, quelle est la position de notre pays par rapport aux autres pays, et sur cette base-là, regarder les textes et qu'est-ce qui se passe au niveau des autres pays et qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui n'est pas permis. Nous sommes aujourd'hui à un taux de couverture assez limite, hein, de taux de pénétration à peine de 37 à 40% aujourd'hui, alors que on escompte pour les 5 ans à venir 100% de taux de couverture et 70% de taux de pénétration.
Parlons sport à présent. Poursuite au stade Lawanda Dimonzo de Zender des rencontres de la phase finale du championnat national de deuxième division. Ce matin, pour le compte du premier match de la deuxième journée, de la poule A, Jean Gorjo de Maradi a battu Nima de Difa 2-0. Cet après-midi, Sonancha de Tillabéri a rencontré Telwa FC d'Agadez. Le match s'est soldé sur un score de 0-0. Ce sont là des informations de notre correspondant sur place à Zender.
Studio Kalangu. Les programmes de Studio Kalangu
à Niamey.
Sur la radio alternative
99.4 FM
à Zender.
Sur la radio Choukra FM
105.5 FM
à Dosso.
Sur la radio Far'a
92 FM
à Tawa.
Sur la radio Tambara
107 FM
à Arlit.
Sur la radio Ikokan
95.1 FM
à Agadez.
Sur la radio Nomade FM
101.9 FM à Tillabéri.
Sur la radio Tébouassé
97.5 FM à Maradi.
Sur la radio Garkwa
107 FM à Filengé.
Sur la radio Mouriatalaka
95.1 FM à Difa.
Sur la radio Anfani
100 FM.
Studio Kalangu.
À présent, la partie magazine de ce soir. Pendant la campagne hivernale, beaucoup de Nigériens consomment les eaux de pluie ou eaux stagnantes des mares. Il s'agit d'eau non potable qui peuvent provoquer des maladies parasitaires et infectieuses. Docteur Iliassou Idi Menassara, spécialiste en gestion des services de santé, nous en dit plus au micro de Omar Hama.
Les eaux qui ne sont pas quand même potables constituent une source de maladies pour cette population. Et les maladies les plus fréquemment rencontrées, vous avez tout ce qui est maladies parasitaires. En dehors des maladies parasitaires, vous avez des maladies infectieuses. Les maladies infectieuses, les salmonelloses qui sont des maladies bactériennes. Vous avez d'autres maladies, par exemple la bilharziose qui peut être attrapée dans l'eau de Marigot. Toute maladie dont le véhicule peut être l'eau, donc fait en sorte que cette eau constitue une source de propagation. Vous avez les maladies comme les gastro-entérites, elles sont également liées à de l'eau non potable, de l'eau usée ou de l'eau du marigot. Donc ces sources-là constituent des sources de propagation et de contamination à grande échelle de la population si des précautions n'ont pas été prises. Normalement, l'État, qui doit être garant de la santé à travers la Constitution, doit prendre des mesures pour que la population ait une eau potable. En construisant, par exemple, des puits, même les puits peuvent réduire la propagation des maladies, les forages, etc. Le dernier mot, c'est un conseil à l'endroit de la population qui est obligée d'utiliser cette eau. Il y a quand même des mécanismes qu'on leur a appris de purifier cette eau. Il y a par exemple, quand vous prenez les riverains du fleuve, il y a l'aquatab qui est distribué chaque année, qui constitue un moyen de désinfecter l'eau, c'est-à-dire de détruire les germes qu'on peut détruire. Parce qu'aujourd'hui, il y a des villages, quand vous allez, vous êtes obligé, quand vous puisez l'eau, d'attendre et les débris se déposent pour la boire. Et ces débris-là, généralement, vous avez parasites, vous avez des germes, vous avez de n'importe quoi. Si aujourd'hui, la population est éduquée, elle doit quand même observer certaines dispositions, ne serait-ce que mécaniques, et qui sont vraiment rudimentaires pour réduire la charge, en tout cas, du danger que constitue cette eau.
Ici prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez le forum du studio Kalangu avec Diallo Mariama Kenda.